Christian Flesch, ancien directeur de la police judiciaire bonsoir, de Paris. Vous nous avez rejoint. Bonsoir et bonsoir Bruno Pomard, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure, ancien instructeur du RAID. On va bien évidemment se pencher sur cette traque qui se poursuit avec probablement une deuxième nuit de cavale pour les fugitifs. D'abord, Mélanie, faisons un point. Cette traque, elle a pris une autre dimension aujourd'hui, une dimension internationale, puisqu'Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, a émis une notice rouge. Qu'est-ce que ça implique ?
Ça veut dire que il est actuellement Mohamed Amra et ses comparses, en tout cas lui nommément, mondialement recherché, que les autorités françaises ont décidé de demander la coopération internationale de tous les services de police, en quelque sorte, pour les aider à le localiser et à l'interpeller. Gérald Darmanin avait déjà dit que des moyens considérables étaient mis en place. Hier, on parlait du plan Épervier qui avait été activé, puis levé quelques heures plus tard, parce qu'il y a toujours un délai de 4 heures maximum dans lequel il ne peut pas être prolongé. Avec déjà hier beaucoup de forces de l'ordre sur le terrain, 450 policiers et gendarmes. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur n'a pas voulu donner de chiffres précis, mais évidemment que la traque, elle se poursuit sur le terrain. Les services de police et de gendarmerie, unanimement, sont tous en état d'alerte. Et en parallèle, il y a tout le volet judiciaire qui se poursuit avec tout ce qui a pu être glané sur la scène de crime, des douilles, peut-être des traces de sang, les véhicules brûlés qui ont été retrouvés pour celui qui a tamponné le fourgon pénitentiaire sur place, et puis les deux autres voitures qui ont été retrouvées incendiées à quelques kilomètres de ce péage. Il y a tout le travail d'audition aussi, des proches, des membres de l'entourage, de la famille, du personnel pénitentiaire. Il y a toutes les images de vidéosurveillance. On en a vu quelques-unes, des images qu'on a diffusées sur notre antenne. Il y a aussi toutes celles des péages, des stations-service, des autoroutes, des commerces à proximité. Les enquêteurs partent de la dernière trace qu'on a pu objectivement retrouver, ce sont les deux véhicules brûlés. Ensuite, il faut chercher un peu tout azimut par cercle concentrique. Est-ce que les véhicules brûlés donnent un sens de fuite aux assaillants ? Est-ce qu'ils sont partis en sens inverse ? Il y a tout un travail de téléphonie. On voit les pistes, elles sont multiples. Ça peut être un travail long. Ça peut se débloquer dans 2 heures. Ça peut durer des semaines. C'est un travail de longue haleine qui est commencé sur le plan judiciaire, mais évidemment sur le plan opérationnel, tout peut basculer à tout moment.
Bruno Pomard, l'émission d'une notice rouge, c'est une précaution. Ou est-ce que ça signifie qu'il y a une probabilité forte qu'il ait pu passer les frontières?
Il faut s'ouvrir tous les horizons, comme on dit. Donc, soit ils sont retranchés dans un secteur peut-être près, on n'en sait rien, encore une fois. Est-ce qu'ils sont tous ensemble? J'en doute, mais en attendant, il faut s'ouvrir toutes les possibilités. Donc, le fait qu'on soit en alerte maximale, même au niveau international,
c'est très efficace, important. C'est efficace, c'est notre
rouge. Oui, tout est bon. À partir du moment où on ouvre une enquête, il faut ouvrir toutes les portes et puis essayer de glaner un maximum d'informations pour que l'investigation puisse apporter ses fruits.
Et c'est quoi, Laurent, la différence avec un mandat d'arrêt international, et pourquoi c'est pas un mandat d'arrêt international qui a été émis?
Non, mais là, c'est une notice rouge. Donc, ça veut dire que c'est une alerte à toutes les polices du monde entier. Si passe une frontière, il sera arrêté. Ils sont pas si nombreux, ils sont 6799 cet après-midi à avoir une notice rouge Interpol. Il y a 46 Français. C'est pas non plus et il est en tête de liste, entouré de Colombiens ou de Sud-Américains.
Quand même réfréner un peu vos ardeurs, c'est-à-dire que ça présuppose qu'il passe la frontière sous sa véritable identité.
Oui, bien sûr.
Donc, ce qui est quand même un peu illusoire. Donc, ça veut dire simplement, et peut-être qu'il y a d'autres choses que sa propre état civil, peut-être qu'on peut transmettre des ADN, peut-être qu'on peut transmettre des empreintes.
Sa photo.
Et là, ça rentre dans les fichiers, la photo, mais la photo, il peut changer.
Oui.
Mais l'ADN et les empreintes, il ne les changera pas. Et donc, si ça rentre dans des fichiers internationaux, c'est beaucoup plus utile que son nom lui-même, parce que passer une frontière sur
nom. Parce que du coup, on a un certain nombre d'éléments, et effectivement, l'ADN notamment, qui peut permettre de le repérer s'il est sous une fausse identité. En fait,
bien sûr.
Grâce à cette notice rouge. Encore faut-il,
Ce que ça nous dit aussi, c'est que ce soir, il n'y a qu'une seule fiche rouge. Et il n'y en a pas 4 ou 5. Autrement dit,
ça veut dire qu'on n'a pas l'identité
soir,
des autres.
L'identité des complices. Parce que s'ils en avaient une autre, il y en aurait eu 2 ou 3.
Comment se fait-il d'ailleurs que ça prenne autant de temps? Parce qu'on a quand même un certain nombre d'éléments. Alors je sais bien évidemment qu'il faut les exploiter, mais entre les éléments balistiques qui sont trouvés sur la scène de crime, l'analyse des véhicules, les caméras de vidéosurveillance, comment ça se fait-il qu'on n'ait même pas au moins un nom d'un des participants de ce
combat? Le temps médiatique est différent.
On est trop pressé. En fait, on se dit qu'il y a beaucoup d'éléments. Mais ça met du temps à les exploiter, ces éléments.
Il y a la possibilité qu'il y ait des éléments. Oui. On ne sait pas combien il y a d'éléments de retrouver. On cherche pour l'instant. Ce qui est trouvé doit être analysé. Je ne sais pas combien a été trouvé. Ensuite, ça doit être analysé.
Oui.
Donc ça, c'est les éléments de constatation sur place. Oui. Ensuite, il y a un individu qui, semble-t-il, était entre Marseille et Rouen. Il a été incarcéré. Il a donc une cellule en prison. Il a des gens qui l'ont amené à être mis en examen dans d'autres affaires. Il a été jugé, peut-être il a été co-détenu. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qu'il va falloir gratter. Il y a un environnement numérique, Mélanie Bertrand a résumé l'enquête, mais l'environnement numérique, c'est-à-dire toutes les traces numériques sur les lieux à la fois
du crime, la scène de crime.
De la scène de crime, puis les lieux de découverte des véhicules. Il y a des traces, peut-être des appels téléphoniques qui ont été passés ou reçus. Tout ça, ça doit rentrer dans une base de données, être malaxé et permettre peut-être à un moment donné, comme le disait Mélanie, qu'une petite trace va donner un fil,
qu'on va tirer. Voilà. Est-ce qu'il y a une zone de recherche qui est privilégiée? Tout à l'heure, Bruno disait on se ferme aucune porte et c'est pour ça qu'il y a une notice rouge qui est émise. Mais on a vu par le passé, quand on regarde Redouane Faïd, quand on regarde Salah Abdeslam, à chaque fois ils ont été repérés, ils se trouvaient en fait dans leur ville natale, dans leur zone d'origine, une région qu'ils connaissent bien, un environnement qu'ils connaissent bien, parce qu'ils ont probablement des soutiens logistiques sur place et que c'est plus facile de tenir sur la longueur une cavale. Est-ce que c'est une zone qui est privilégiée? On s'intéresse d'abord à l'endroit où il vit, où il a des attaches, où on cherche...
Après, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il sera retrouvé. Ça, c'est sûr.
Oui, oui.
Voilà, ça va prendre peut-être un peu de temps.
Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il sera retrouvé?
Parce que forcément, tous les gens que vous avez cités, d'ailleurs, ont été retrouvés. Ils se sont évadés, ils ont été retrouvés.
Il y a des fugitifs aujourd'hui en France qui n'ont pas été retrouvés.
Oui,
il y a
du pont
de Ligonnès.
Alors ça, c'est un autre cas.
Sur le site d'Europol, hier, on regardait, il y a au moins 3 Français qui figurent parmi les fugitifs les plus recherchés, des gens qui ont commis des
sur les notices rouges d'Interpol, il y en a 46. Donc, par définition, les 46, ils n'ont pas été retrouvés.
Mais qui sont recherchés depuis combien de temps, les 3 Français?
Depuis, de mémoire, certains, d'un bon paquet d'années. Un homme qui a tué sa fille et qui a pris la fuite, je crois, il y a plus de 10 ans au moins, et 2 autres personnes.
Vous ne pouvez pas comparer. C'est un trafiquant, c'est un voyou. Il est dans un schéma où, à un moment donné, il va faire de l'ombre, où des voyous auront intérêt à le balancer à la police.
Ou une erreur, tout simplement.
C'est leur propre intérêt. Ou il fait une erreur, bien sûr. Mais il a intérêt à continuer son business et en faisant ça, il fera des erreurs.
Il y a eu des surveillances, pour répondre à votre question, Perrine, au quartier de la Madeleine, à Évreux, dont il est plus ou moins originaire. Ouais. Donc c'est vrai que hier soir, Bruno Pomard, il disait, ils sont soit prêts, soit loin. S'ils sont prêts, c'est vrai, soit groupés, soit séparés. Soit ils se sont dispersés.
Est-ce que c'est plus difficile le fait qu'ils soient à plusieurs?
C'est vrai que s'ils sont... Oui. Bruno Pomard, il pense qu'ils sont plutôt dispersés, plutôt prêts.
Oui, c'est vrai. Bon,
voilà. Et alors, ça rend les complets, les recherches beaucoup plus compliquées.
C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir toutes les possibilités. Voilà. Et les enquêteurs savent faire. Ce sont parle sous le contrôle de Christian Flèche, qui connaît très bien la matière. Mais je veux dire, c'est les enquêteurs savent exactement comment fonctionnent ces individus. Quoi. On a affaire à des voyous qui sont pas aussi structurés qu'on l'imagine. Il faut pas rêver. Hein. C'est pas les grands bandits qu'on a pu connaître, qui avaient des plans très élaborés lorsque on a connu le grand banditisme des années 80-90. Mais ceux-là sont à mon sens, seront rapidement retrouvés parce qu'ils vont faire une erreur et c'est évident.
Non seulement ils ne sont pas structurés, mais moi je trouve que ce qu'ils ont fait montre leur irrationalité qui est totale. Puisque au-delà du fait de tirer sans sommation sur des êtres humains, sur des agents pénitentiaires, ils le font avec la certitude qu'ils seront retrouvés effectivement non seulement Amra, mais probablement tous ses complices.
Quoi, il y a un profil tête brûlée?
Mais c'est du délire, je trouve que c'est irrationnel. Et non seulement ils savent qu'ils sont retrouvés, mais ils savent qu'ils prendront perpète derrière. Il faut pas se raconter d'histoire. Donc en fait, cette opération, elle montre les moyens délirants dont disposent maintenant les narcotrafiquants, c'est-à-dire les armes de guerre, etc. Et en même temps, le fait que ce sont des gens qui sont pas rationnels.
Je vous arrête sur le terme de narcotrafiquant et vous avez employé le terme de trafiquant parce que il y a quand même la question du mobile qui est pas élucidée. Et pour exécuter des agents pénitentiaires avec les conséquences que ça implique, on se dit forcément que la motivation, elle doit être à la hauteur de l'enjeu. Et pourtant, Mélanie, il y a un décalage entre le CV, ce CV d'un bandit de moyenne catégorie, on va dire, et les moyens qui sont déployés. Et il y a un flou sur la place qu'il occupe dans la hiérarchie criminelle.
Oui, c'est
en
ce qui pose question, effectivement. Mohamed Amra, il a 30 ans, il est incarcéré depuis un peu plus de 2 ans maintenant, mais il a un lourd casier judiciaire. C'est quelqu'un qui a évolué, on va dire, qui a grandi dans la petite moyenne délinquance. Il a été condamné à des peines, condamné pour vol par effraction, pour refus d'obtempérer. La peine la plus lourde à laquelle il a été condamné jusqu'à présent, c'est 3 ans de prison pour vol avec effraction. Il était détenu depuis janvier 2002 et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il est mis en examen dans 2 autres dossiers. Ça veut dire que l'enquête, elle continue, qu'il n'a pas encore été jugé. Un, pour tentative d'homicide à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2021. Il est soupçonné d'avoir tiré sur le domicile d'une victime. Lui, dit qu'il n'y est pour rien. Et puis un autre dossier, là, c'est à Marseille. Il est mis en examen aussi pour meurtre en bande organisée. À ce moment-là, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que Mohamed Amra, il est en détention déjà. Donc, la justice pense qu'il peut être le donneur d'ordre, celui qui a commandité, en tout cas, ce meurtre. Et récemment, il venait d'être condamné, là, vraiment tout récemment, la semaine dernière, à 18 mois de prison, à nouveau, pour des vols avec
effraction. Des meurtres sur fond de trafic de drogue.
Oui, voilà, c'est ça qui nous interpelle, c'est que jusqu'à présent...
Donc, on s'interroge sur les liens qu'il pourrait avoir.
Il était connu pour des faits de petite, moyenne délinquance, des choses graves, mais il baignait pas encore dans le grand trafic de stupéfiants. Et les 2 dossiers pour lesquels il est mis en examen, effectivement, sont sur fond de stupéfiants et interrogent sur le rôle qu'il a pu jouer. Peut-être qu'il a été sous-évalué, entre guillemets, par la justice, par les autorités, ça, on le sait pas encore. Mais effectivement, il y a un décalage entre les moyens mis en œuvre que l'on voit sur ces
et le CV affiché et connu
et le pedigree de cet homme de 30 ans.
Est-ce qu'il est possible que les services de police, de justice, soient passés à côté d'un gros bonnet, en fait, qui soit passé sous les radars finalement?
Ce que disait Mélanie Bertrand, c'est qu'il a été condamné pour des faits qui étaient des faits relativement mineurs et qu'il était mis en examen. Donc il y avait des enquêtes en cours pour lesquelles il aurait pu être condamné, puisqu'il est présumé innocent, pour des faits beaucoup plus graves, puisque là on arrivait sur des morts.
Oui, mais il n'est pas, dans ces affaires-là, il n'est pas mis en examen pour trafic de drogue, il est mis en examen pour complicité.
Oui, mais qui sont liés à des trafics de stupéfiants.
Oui,
qui sont liés à des trafics.
Mais ce que je veux dire, c'est que si c'était effectivement un gros bonnet, ça signifie que la justice, que la police ne l'a pas vu.
Je pense qu'il était parti dans la catégorie des gros bonnets. Et là, se pose le problème de la gestion de ces transferts, qui est un autre souci qui est derrière. Après, je trouve qu'en ce moment, en 2 jours, vous avez le rapport sénatorial qui est remarquable sur les trafics de stupes, le jour où il y a ce flingage dramatique. Et aujourd'hui, vous avez le rapport sur l'état des prisons. Ouais. Parce qu'une partie aussi du problème, bien que, comme le disait Mélanie, depuis les prisons, vous continuez votre business. Parce qu'il y a une surpopulation carcérale, il n'y a pas assez de surveillants et que les surveillants achètent la paix sociale. Sans compter un autre sujet qui est l'éventuelle corruption des agents pénitentiaires. Parce que dans les prisons, vous avez du hashish, vous avez des téléphones, ce qui permet à chacun de faire son business et que les prisons arrivent à vivre à peu près paisiblement.
Laurent, je me permets juste parce que forcément, ça pose tout un tas de questions, le CV qui est affiché, et on se dit s'il y a eu une telle attaque avec de tels moyens, c'est forcément qu'il représente quelque chose à cet individu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des carrières de trafiquants de drogue qui sont fulgurantes et qui peuvent du coup passer sous les radars,
Périne,
de la justice?
C'est un gros bonnet. Mais c'est vrai qu'on raisonne comme avec les gros braqueurs des années 80, où il fallait avoir le certificat d'études, le baccalauréat, passer sa licence en droit et avoir l'ENA. C'était un profil linéaire. C'est plus du tout ça aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on n'est plus du tout. Il faut pas raisonner comme on raisonnait avec Francis le Belge, qui tenait à lui tout seul tout le Grand Sud. Voyez, ou avec un système d'études. Là, dans le banditisme aujourd'hui et dans le narcotrafic, les vieux codes n'ont plus lieu d'être. Mais la police l'avait vu. Parce que l'enquête de la police de Marseille sur l'homme qui a été retrouvé une balle dans la tête dans une voiture calcinée à Aubagne en juin 2022, c'est une grosse enquête qui démontre
Mohamed Amra... Pardon, mais si la police l'avait vu, pourquoi l'extraire sa cellule pour une audition d'une heure, prendre tant de risques et mettre une escorte de niveau 3 si on a affaire à un gros bonnet?
Parce qu'il y a 3 dossiers différents. Ouais. Parce que, comme le dit le rapport d'enquête, en matière de narcotrafic, l'État est désorganisé. Alors, comme l'État est désorganisé, il y a les policiers de Marseille qui enquêtent sur un individu qui était en guerre de gang avec son ancien allié. Ils se sont entretués. Il y a au moins 4 morts à l'actif d'Amra, à Marbella et à Marseille, téléguidés depuis sa prison. Alors si ça, ça fait pas un gros bonnet.
Et pourtant,
alors c'est vrai que c'est en décalage. C'est en décalage avec ses anciens diplômes, qui sont des diplômes de petites délinquances.
Mais dans ce cas-là, ça interroge sur les mesures de surveillance et de sécurité.
Alors non, Perrine, parce que le dossier pour lequel il a été transféré des Baumettes, où il était bien gardé aux Baumettes, parce qu'à Marseille, on sait que c'est un gros trafiquant, à Évreux, à la petite prison d'Évreux. C'est parce que il devait être jugé pour sa vieille affaire de 18 mois.
Mais donc à Évreux, on n'a pas les informations
dans le vol de. Mais non, c'est parce qu'à Évreux, et puis parce qu'il y en a beaucoup de gens dans ce cas, puisque justement la spécificité du nouveau banditisme avec les narcotrafics, c'est que ça va très vite, ils montent très vite et ils sont délogés très vite et ils ont des moyens énormes. D'où l'opération d'aujourd'hui qui arrive. Il y a une phrase, mais qui est magique quand on la lit, qui est prémonitoire dans le rapport d'enquête, c'est de dire que les sénateurs ont vu une montée de la violence avec trois mots, sans limite, sans conscience et sans échappatoire pour ceux qui en sont la cible. Et alors là, cette phrase, elle est arrivée dans un rapport le jour où vous voyez trois...
avec la triste illustration sur le
sans limite, illustration. Sans conscience. Exactement. Et sans échappatoire pour les
Avec cet exemple tragique.
Bien sûr.
Mohamed Amra, donc toujours recherché ce soir, Lisa. Il y en a eu plusieurs des cavales qui ont marqué la France, on en a évoqué quelques-unes.
La dernière en date, celle que vous devez encore avoir en tête, c'est celle de Redouane Faïd. Son évasion spectaculaire avait duré 7 minutes et 33 secondes et sa cavale, elle, a duré 95 jours. Quand sa fuite commence, il ne se cache pas tout de suite. Redouane Faïd va s'acheter 1000 euros de vêtements dans les rues de Paris, le visage dissimulé sous une casquette alors que ce même visage est placardé dans la France entière. Le roi de la belle va échapper aux enquêteurs de justesse plusieurs fois. D'abord, un chasseur repère des Kalachnikov, des gilets pare-balles et une disqueuse notamment. Tout est moucheté de l'ADN de Redouane Faïd. Plus tard, un contrôle routier, mais aussi presque fin à sa cavale. Et c'est 95 jours donc après l'évasion qu'il y a un signalement à Creil dans l'Oise, c'est la ville dans laquelle a grandi Redouane Faïd. Une personne en burqa, de grande taille et assez musclée, comme si un homme se cachait dessous, attire l'attention. Plusieurs planques, plusieurs filatures et plusieurs écoutes plus tard, la personne en burqa est Redouane Faïd. Il est arrêté dans un appartement à 4h du matin.
La cavale de Salah Abdeslam qui a beaucoup marqué les esprits aussi.
Oui, commanditaire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam est le seul survivant parmi tous les assaillants de cette attaque terroriste. Salah Abdeslam et ses complices se font contrôler à 3 barrages routiers et passent à chaque fois très vite, plus aucune trace du fugitif. La cavale et donc la traque durera 4 mois. Salah Abdeslam est repéré à plusieurs reprises en Belgique, mais jamais ni les perquisitions ni les opérations de police ne permettent de le retrouver jusqu'au jour où le terroriste va commettre une erreur. Il va contacter l'un de ses proches pour être hébergé. Les forces spéciales sont alors positionnées devant l'immeuble et Salah Abdeslam sort de cet immeuble. Il reçoit une balle dans les jambes. Fin de cavale.
Des traques qui ont tenu la France en haleine, il y en a eu beaucoup d'autres. L'une des plus longues, des plus marquantes, des plus retentissantes, c'est celle d'Yvan Colonna.
Oui, soupçonné du meurtre du préfet Claude Erignac en 1998, Yvan Colonna disparaît en 1999 et se cache dans le maquis corse. La police le cherche partout en France et à l'étranger. Interpol est aussi sur le coup, évidemment. Rien. Jusqu'en 2003, il sera finalement arrêté dans une bergerie en Corse du Sud. Cette cavale aura duré 4 ans.
Merci Lida. Et à chaque fois, effectivement, Charles, la cavale, elle peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais au bout du compte, ils finissent toujours par commettre une erreur. Et systématiquement, ils sont arrêtés. Alors, il y en a quelques-uns, ce que tu disais, Mélanie, tout à l'heure, au moins trois Français qui sont toujours recherchés depuis plusieurs années. Mais la grande majorité finit par être retrouvée.
C'est pour ça que je trouve ça irrationnel, en fait, de la part, en l'occurrence, de ce Mohamed Amra. À la limite, quelqu'un qui serait condamné à la prison à perpétuité, on peut, entre guillemets, comprendre, en tout cas intellectuellement, qui prenne tous les risques et qui commettre tous les crimes. Enfin, il y a quelque chose de rationnel à vouloir s'échapper si on n'a pas d'autre horizon que la prison. En revanche, quand on était comme cet homme-là, simplement sous le coup de mise en examen, dont on comprend qu'elles étaient pas encore totalement clair et que potentiellement il n'était pas promis à passer sa vie en prison, bah maintenant il a l'assurance qu'il passera sa vie en prison. Ça, c'est quelqu'un qui va finir ses jours en prison. D'ailleurs, Redouane Faïd, ça va être probablement son cas aussi, dans des conditions extrêmement difficiles aussi, hein, parce qu'après, une fois que vous êtes en prison, quand vous êtes quelqu'un comme ça qui est susceptible de s'échapper, vous êtes à l'isolement, vous avez des conditions de détention
qui. Son procès où on était.
Bien sûr.
Il se plaignait de ces conditions qui étaient drastiques.
C'est vrai.
Tout à fait, mais lui disait que c'était totalement
inhumain. C'est peut-être pas le jour pour déplorer les conditions de détention de Redouane Faïd, mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est
alors son avocat a tenté une explication en disant qu'il n'était peut-être pas à l'origine de cette évasion et c'était peut-être des ennemis qu'il avait exfiltrés. C'est une stratégie aussi de défense.
Je comprends le raisonnement de son excellent avocat. Élément peut-être intéressant aussi là.
C'est une bonne stratégie de défense.
En tout cas, ce que je constate, je ne vais pas juger de sa stratégie de défense, ce que je constate, c'est qu'il l'amorce déjà. Dès sa première interview, il est déjà sur la défense à venir lors d'une éventuelle audience. Mais voilà, je pense que c'est irrationnel. Et ce que ça montre surtout, moi, c'est l'incroyable ampleur qu'a pris le narcotrafic en France et le fait que vous avez des gens qui potentiellement ne sont pas des vrais gros bonnets au sens des vrais très gros trafiquants très expérimentés, très intelligents, très tout ce que vous voulez.
Enfin, faut quand même de l'argent pour une cavale comme ça parce que ces mecs-là, il faut les payer.
Mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais ce que ça montre, c'est que en fait, vous pouvez être à un niveau entre guillemets relativement intermédiaire du narcotrafic ou même de entre guillemets de votre carrière de narcotrafiquant et être quand même à 5 personnes armées d'armes de guerre capables de tirer dans le tas pour vous libérer. C'est ça que ça montre, ça veut dire que le narcotrafic prend des proportions dont qu'à mon avis on ne mesure pas.
Le vrai gros trafiquant qui a réussi, il est à l'étranger. Il profite de son argent à Dubaï, par exemple, ou ailleurs.
Exactement.
Voilà. Ou celui qui a été pêché au Maroc, également.
Oui. Il y a peu de temps. Après, ça montre bien,
se protéger.
Dans une période où on parle beaucoup de la réforme de la police judiciaire, ça montre bien la nécessité d'avoir toujours des services spécialisés de police judiciaire au niveau national qui sont capables de suivre une affaire comme ça.
C'est-à-dire un parquet spécial narcotrafic?
Le parquet, ça c'est autre chose. Je parle des services de police.
Ce qu'a proposé Dupond-Moretti, d'ailleurs.
Et oui, tout à fait.
Ça, c'est
moi, je trouve que c'est intéressant.
Mais c'est sorti toujours du grand banditisme général. Quoi.
Ce qu'on a fait en Italie, d'ailleurs.
Voilà, exactement.
Ce qui a été fait en Italie, ça a marché.
Il faut s'imprégner de ce qui se passe en Italie depuis des années. Et il ne faut pas oublier qu'à notre frontière nord, en Belgique et en Hollande, on est quand même beaucoup plus avancé que, heureusement, nous en sommes aujourd'hui en France.
Oui.
Voilà pour les mots de ce papa. Bonsoir Romain Cherlin, vous êtes délégué du syndicat pénitentiaire SPS en charge des prèges, le pôle de rattachement des extractions judiciaires. J'imagine votre réaction en entendant les mots bouleversants de ce papa.
Oui, bonsoir. Oui, effectivement, quand on entend le témoignage de ce père, on peut être que ému et comprendre sa détresse et il a un témoignage poignant et digne, quoi.
Voilà. Il est important ce témoignage parce qu'il raconte des détails sur la vie de son fils. Il dit par exemple qu'il avait intégré les extractions judiciaires et du coup ça lui permettait d'avoir ses week-ends et que comme ça il pouvait profiter de sa compagne et préparer l'arrivée de son fils. Ce genre de détails de vie, ça nous raconte, ça nous dit beaucoup aussi à nous. Ça nous raconte que derrière l'uniforme, il y a aussi, il y a aussi des hommes, il y a des femmes et il y a des histoires.
Oui, exactement. On est des personnes comme tout le monde. On a des femmes, on a des enfants, on a des parents. On fait un métier qui est extrêmement difficile et qui est méconnu du grand public. Et c'est un métier de l'ombre. Et voilà, donc quand ça arrive, malheureusement, il faut des situations telles que celle-ci pour pouvoir parler de nous, quoi.
7 ans que vous êtes agent du Prège, il va falloir retourner au travail, il va falloir reprendre les transferts de détenus. Il y a de l'appréhension?
Alors aujourd'hui, il y a de l'appréhension pour beaucoup d'agents. On a rencontré des psychologues du personnel. Il y a eu des échanges de sentiments, de révolte. Et oui, aujourd'hui, les agents ont une certaine appréhension, mais il va falloir qu'on retourne au travail et qu'on effectue nos missions qui sont capitales pour la justice, quoi.
Jusqu'à présent, est-ce que vous vous sentez en sécurité sur les trajets? Est-ce que vous vous sentiez suffisamment protégé, ou est-ce que ce scénario-là, c'était quelque chose auquel vous pensiez?
Alors, on y pense toujours, parce que lorsqu'on fait cette formation, on nous explique qu'il y a un danger. On est conscient, hein, on transporte des détenus dangereux, on est armé. Voilà, on a toujours au fond de nous c'était à l'esprit que c'est dangereux. Maintenant, ce qui est arrivé, c'était... c'est tellement horrible, c'est tellement cruel ce qui s'est passé qu'on pouvait pas l'imaginer. Hein. Mais on a alerté aussi souvent notre hiérarchie, nos directions, des problèmes qu'on peut rencontrer sur la route, par exemple, avec nos véhicules qui sont sérigraphiés, qui sont une cible pour nous, hein, clairement. Hein. Ça fait des années que notre organisation syndicale fait remonter pas mal de problèmes qu'on rencontre, et on n'était pas forcément entendus, malheureusement.
Mais typiquement sur les véhicules, qu'est-ce qu'on vous répond quand vous dites pourquoi on n'est pas dans des véhicules banalisés, pourquoi on n'est pas dans des véhicules blindés? Qu'est-ce qu'on vous répond aujourd'hui?
Alors nous, on a toujours demandé à avoir des véhicules banalisés, parce que il faut être le plus discret possible, hein, d'accord. Et on nous répondait que voilà, fallait qu'on soit identifiable auprès de la population. Je pense que c'était un effet de pub aussi pour l'administration pénitentiaire.
De pub
pour dire que voilà, l'administration pénitentiaire maintenant est à l'extérieur, assure certaines missions. Et c'était pour marquer que l'administration pénitentiaire maintenant fait ses missions, et peut-être pour attirer du personnel, parce que c'est vrai que c'est un métier qui attire pas du tout, hein. On va pas se leurrer là-dessus. Hein.
Je reviens vers vous dans un instant, Dominique Schuerlin, mais c'est vrai qu'on hallucine quand on entend ça, Bruno Pomard, parce que forcément, c'est ce qu'est en train de dire Romain Schuerlin, c'est que ça fait des années qu'ils font remonter cette information en disant mais on est une cible, les véhicules sont logotés administration pénitentiaire, on est une cible pour les évasions.
C'était pas le sujet quand même. Hein.
Non mais
c'est pas parce qu'ils avaient le logo sur le camion.
D'accord, mais ça interroge aussi sur le fait qu'ils soient identifiables.
Écoutez, c'est totalement aberrant. Vous avez raison, mais le problème, c'est que vous avez deux niveaux. Dans toutes nos grandes administrations, vous avez des technos qui décident des choses sans aller sur le terrain, sans savoir ce qui se passe réellement. Et puis vous avez ces gens, eux, qui sont sur le terrain. On l'a connu, moi je suis un major de base au RAID et dans pas mal de services. Et c'est deux mondes différents. Et ça, c'est le résultat, en même temps, de ce qui se passe entre ceux qui commandent à très haut niveau et qui sont parfois bien perchés et qui ne se rendent pas compte des difficultés de terrain que rencontrent ces gens-là, au même titre que les policiers, au même titre que d'autres. Voilà. Quand on parle de voitures banalisées, c'est intéressant même d'avoir des voitures rapides, très rapides, deux voitures très rapides, façon de pouvoir partir très rapidement. La preuve, c'est que ceux qui sont venus, on a vu qu'il y avait une Audi qui roulait très très vite. Bon, voilà, il y a des choses très simples, mais on a l'impression d'être dirigé dans des grandes administrations, et visiblement, j'ai l'impression que à la justice, c'est ça, c'est par des gens qui sont complètement déconnectés, quoi, qui ont passé de très beaux diplômes, qui sont très intelligents, mais qui sont complètement à côté de la plaque.
Romain Schuerlin, lors de votre formation, est-ce que vous êtes préparé aux attaques de fourgons, et si oui, comment?
Alors, lors de notre formation, on est préparé à assurer des escortes, mais jusqu'à un certain niveau. Après, quand c'est des niveaux supérieurs, comme les escortes 3 ou les escortes 4, on est toujours, en général, on est renforcé par les FSI, donc soit les gendarmes ou soit les ERIS de l'administration pénitentiaire. Mais on n'est pas formé pour assurer entièrement et seul une escorte judiciaire à 3. Escorte 3, on n'est pas formé pour ça. On n'a pas le matériel, on n'a pas les équipements pour pouvoir assurer ces missions-là.
Merci Romain Chorlin et bon courage pour la reprise du travail. Alors demain, de ce que j'ai pu comprendre, ce sera encore une nouvelle journée de blocage. Mais après, effectivement, il faudra retourner au travail, même si Éric Dupond-Moretti s'est engagé cet après-midi en recevant les syndicats à une réforme concrète des escortes pénitentiaires. On va prendre la direction de l'Or, le péage d'Incarville où le fourgon a été attaqué. Avec vous, Marine Hulcé, vous êtes sur place. La scène de crime a été passée au crible, le péage a rouvert. Quelles sont les pistes ce soir que suivent les enquêteurs?
Eh bien, c'est une véritable course contre la montre qui s'est organisée depuis hier pour tenter de retrouver celui qui est désormais l'homme le plus recherché de France. Des moyens considérables sont mobilisés. Cet après-midi, Interpol a annoncé avoir diffusé une notice rouge pour localiser Mohamed Amra à la demande des autorités françaises. Alors, ces notices rouges, elles permettent de transmettre des avis de recherche internationaux émis par la justice d'un pays à l'encontre de suspects. Et en parallèle, l'enquête judiciaire se poursuit pour récolter des indices sur la scène de crime afin d'identifier les membres du commando dont les identités demeurent encore à l'heure actuelle inconnues. Les caméras de vidéosurveillance sont également exploitées, ainsi que les images diffusées sur les réseaux sociaux par les éventuels témoins présents lors de l'attaque sur la scène criminelle. Du bornage téléphonique est réalisé, ainsi que la géolocalisation pour savoir si des téléphones se sont déplacés. Autre élément important pour l'enquête, les douilles retrouvées sur la scène du crime qui pourraient éventuellement servir à identifier les armes utilisées et potentiellement les personnes à qui elles appartiennent. Et enfin, pour traquer les fugitifs, des investigations sont menées sur l'entourage de Mohamed Amra afin de récolter un faisceau d'indices pour pouvoir le localiser ainsi que ses complices. Et son profil est évidemment étudié, sa cellule dont il a essayé de scier les barreaux quelques jours avant son évasion, sera également inspecté de fond en comble.
Merci Marine Mulcé, voilà pour le point sur l'enquête et sur la traque ce soir. Laurent Valdiguier, je reviens sur les questions autour de la sécurité des transferts de détenus. C'est quand même un signal envoyé qui est extrêmement mauvais ce qui s'est passé hier, vu la violence. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure de certains bandits, le degré de violence. Est-ce que ça peut donner des idées à d'autres, fragiliser encore davantage la profession?
C'est la grosse inquiétude aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y aura un avant et un après, parce qu'en réalité, le système n'avait pas imaginé qu'un fourgon, comme disait Charles Consigny tout à l'heure, c'est tellement absurde, le risque pris est tellement absurde que le système n'avait pas imaginé qu'à ce niveau de l'échelle du banditisme, ça soit possible des attaques à l'arme automatique. Alors maintenant que c'est possible une fois, par définition, il faut envisager que ça puisse se répéter. Et donc ça va changer toute la chaîne de l'extraction judiciaire. Il y en a entre 200 et 300 par jour. Parce que il y a quand même, c'est une ruche la prison. Hein, c'est pas une bulle fermée. Il y a 77 000 détenus. Il n'y en a jamais eu autant en France qu'aujourd'hui. Et ces détenus, ils bougent. Ils bougent parce qu'ils sont transférés d'une prison à l'autre, parce qu'ils vont voir des juges pour l'enquête, ils vont voir des policiers pour l'enquête, ils vont voir des gendarmes pour l'enquête, et ils vont voir des juges qui les jugent. Et puis après, ils vont voir l'appel, etc.
Enfin, ils bougent trop, c'est ce que disent les agents pénitentiaires, c'est qu'on peut passer par des visios,
oui, mais c'est aussi, on les juge,
c'est l'état de droit,
fait qu'il faut les juger. Donc en réalité, c'est normal qu'ils bougent.
Ouais, enfin, j'entendais certains qui disaient même pour un acte de divorce, des fois on va extraire un détenu de sa cellule.
Ouais, c'est vrai qu'il faut rationaliser le système et qu'il faut le renforcer, notamment pour ces individus qu'il faut identifier. On les a pas assez identifiés aujourd'hui, qui constituent une ossature d'individus dangereux.
Il y a ce qu'on appelle du nomadisme judiciaire, c'est-à-dire que les voyous les plus dangereux, on leur fait faire le tour des prisons de façon à ce qu'ils ne s'incrustent pas dans une prison et avoir des complicités internes ou externes qui leur permettraient des évasions. Il n'est pas le temps de préparer leur évasion, donc ils tournent.
Là, il était heureux depuis un mois, justement.
Mais là, on va bien voir dans cette affaire-là, déjà, la première décision prise, ça va être l'utilisation des IRIS, qui sont des unités qui sont, il y en a une par région, je peux vous assurer, qui sont quand même formées et surtout équipées. Le fusil d'assaut est ce qu'il faut. Donc là, vous allez voir qu'ils vont être sollicités à outrance pour pallier, évidemment, ce déficit et cette problématique. Parce que là, les syndicats sont vent debout, évidemment. Les prêches vont rester un petit peu en recul, et c'est normal. Et on va vouloir escorter ces gens-là. Peut-être les violeurs, peut-être là encore, à la limite, je dirais que c'est
moins
risqué.
Parce que là, on est quand même, encore une fois, sur un niveau de 3 sur 4 d'escorte. Donc c'est pas rien.
Est-ce que des véhicules blindés seraient utiles?
Oui.
Est-ce qu'ils vous en utilisez déjà? Est-ce qu'ils en utilisent déjà?
Non. La pénalisation, il n'y en a pas. Alors certains disent, oui, mais ils vont attaquer au lance-roquettes. Je veux bien, mais à un moment donné, il faut se donner les moyens. Soit des voitures rapides. Moi, je pense aux voitures rapides. peut-être des voitures rapides blindées, hein, pourquoi pas. C'est des coûts. S'il faut en mettre dans toutes les régions de France pour pouvoir assurer les extractions.
Il y a un moment donné, il va falloir aussi assurer la sécurité des agents.
Tout à fait.
Vous ne pouvez pas les envoyer au feu avec des équipements, des armes légères, avec des véhicules qui sont blindés, avec des petits gilets pare-balles, sans casque, sans rien, alors que vous avez face à eux des délinquants qui sont capables d'avoir des kalachnikovs.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas penser une seule minute que la police ou la gendarmerie assure tout ça, parce que d'ailleurs, on s'en est débarrassé, la police, de ça. C'est pour ça qu'il a été créé ces prêches, pour ça qu'on a été créer les iris, les iris et autres.
Mais c'est... Donc, parce que jusqu'en 2011, c'était la police et la gendarmerie qui étaient chargées
sur Paris, la DOP,
c'est décharger les forces de l'ordre à la base. Oui.
Mais... Sur Paris, la DOP, c'est le fait avec la COTEP, avec des équipes très organisées, c'est-à-dire il y a une voiture ouvreuse, le fourgon, une voiture suiveuse, des motards.
Des véhicules qui ne sont pas banalisés d'ailleurs.
Exactement.
Parce que dans les embouteillages parisiens, une voiture banalisée passera pas.
Oui, tout à fait.
Avec il faut absolument avoir une voiture sérigraphiée, un gyrophare et un deux tons pour espérer passer. Un véhicule banalisé, c'est pour ça que j'aimerais pouvoir échanger un peu plus, mais un véhicule banalisé va être bloqué dans la circulation.
Oui, c'est vrai.
C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est pas des véhicules banalisés.
Moi, je préfère, en tout cas, sur la région parisienne, je préfère avoir un véhicule sérigraphié pour passer.
Quitte à être une cible, être repérable.
Oui, et de toute façon, avec un renseignement, si vous êtes dans un véhicule banalisé, vous pouvez aussi devenir une cible.
Oui, mais là sur Paris, lorsqu'ils interviennent, la DOPC intervient, ils interviennent avec fusils d'assaut et tout ce qu'il faut.
Vous avez dit Kalachnikov, ce n'est pas des Kalachnikov.
Non.
Des armes lourdes.
Turc, apparemment, a été
utilisé. Ouais, R15, M4, avec des M-Point dessus.
Des armes lourdes, en tout cas des armes de guerre. Merci beaucoup.